autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Vialas à la réalisation. Nous embarquons aujourd'hui pour un formidable voyage dans le temps et dans l'espace. Depuis toujours, l'homme veut découvrir la planète. De Ulysse à Darwin, des centaines d'explorateurs se sont lancés à travers les océans, les déserts ou les forêts vierges. Des aventures très dangereuses, généralement motivées par des objectifs militaires, commerciaux ou gastronomiques. Par exemple, pour la route de la soie ou le commerce des épices. Il y eut de nombreux effets tragiques comme l'esclavage ou la destruction de l'environnement. Mais ces voyages ont aussi apporté des connaissances scientifiques sur la biodiversité. De Marco Polo à Christophe Colomb, en avant pour 3000 ans d'expédition naturaliste en compagnie du biologiste Hervé Le Guyader. Hervé Le Guyader, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en biologie évolutive à Sorbonne Université et vous venez de publier un magnifique ouvrage aux éditions Belin. L'aventure de la biodiversité, c'est son titre, avec comme sous-titre De Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste. Donc c'est un magnifique ouvrage, un superbement illustré avec des illustrations de Julien Norwood. Alors vous avez, Hervé Guyader, Le Guyader, donc publié de nombreux livres, notamment La classification phylogénétique du vivant, un ouvrage de référence écrit avec Guillaume Lecointre, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ?
L'idée est la suivante. On parle de biodiversité, on parle beaucoup de biodiversité. À chaque fois qu'on parle de biodiversité, on parle de l'érosion de la biodiversité. Et je me suis rendu compte autour de moi que bien la biodiversité, on ne savait pas très bien ce que c'est d'une part, et d'autre part, on ne connaît pas l'histoire de ces découvertes.
Oui, c'est donc un voyage, enfin disons un récit d'aventure en
voilà,
fait. Hein.
Voilà, alors c'est une aventure humaine, avec ses bons et ses mauvais côtés, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et moi je trouvais qu'il était quand même intéressant de voir comment des animaux, des végétaux emblématiques ou curieux ont été découverts. Et en fait, l'idée, c'est de raconter en même temps de la biologie, de l'histoire humaine, et de l'histoire et de la géographie.
Voilà, donc c'est un formidable travail de documentation. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre ?
5 ans.
5 ans, hein, donc alors 262 pages, alors donc avec des dessins magnifiques, hein, donc il faut le dire, extrêmement réalistes, hein, donc des centaines et des centaines de dessins pleines pages.
Donc, oui, alors déjà, il y a eu si vous voulez, un travail intéressant avec Julien Norwood,
le dessinateur. Hein,
oui, oui, le dessinateur. On s'est très bien entendu. Les choix ont été faits d'une. Enfin, si vous voulez, il y a vraiment une interaction forte entre le texte et le dessin. Les choix ont été faits par nous deux, moi d'un point de vue universitaire, et lui, il me changeait quelquefois en me disant, au point de vue esthétique, ce serait mieux de prendre autre chose.
Oui, voilà, c'est-à-dire c'est à la fois un livre scientifique, à la fois un livre d'aventure, à la fois un beau livre.
Voilà.
Et donc, tout ça réuni hein, donc, en un seul exemplaire.
Voilà, c'était le but.
Et alors, donc, vous commencez votre livre avec le récit de l'Odyssée, écrit par Homère, hein, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc qui n'est pas un récit spécialement scientifique. Hein. Et vous parlez alors du cyclope, hein, cette espèce d'humain avec un seul œil sur le front, donc là on n'est pas dans la science.
Alors, c'est intéressant parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais prendre comme c'est chronologique, j'allais commencer où ? Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement ce mythe du cyclope. Et ça m'a intéressé pour deux raisons. D'une part, une raison biologique, d'où vient ce mythe du cyclope. Et d'autre part, le fait que dans les anciennes civilisations, eh bien, on essayait toujours d'expliquer quelque chose par quelque chose du passé, par quelque chose de connu.
Oui. Alors donc, vous le reliez à quelque chose de réel. C'est-à-dire, vous dites, en fait, ce cyclope, ça pourrait être un éléphant nain.
Voilà.
En fait, alors... expliquez-nous ça.
Alors, c'est les paléontologues qui ont donné cette hypothèse, qui ne sera jamais qu'une hypothèse, bien évidemment, mais que je trouve bonne, parce que les îles de la Méditerranée ont été peuplées par des éléphants nains. Quand je dis nains, ils avaient la taille d'un petit poney ou d'un gros chien.
Ces éléphants n'existent plus.
Ces éléphants n'existent plus. Ces éléphants n'existent plus. Et en fait, quand vous regardez le crâne d'un éléphant, avec la trompe, le nez est déplacé vers le haut du crâne. C'est bien quand vous regardez le crâne et vous regardez au premier abord, vous avez l'impression que là où vous attendez le front, vous voyez un trou.
Et oui.
Et ce trou, c'est le trou du nez.
Ça pourrait donc évoquer un cyclope.
Et ça pourrait
donc, voilà,
évoquer
vous reliez la mythologie à ce qu'on sait, disons, d'animaux, d'espèces disparues. On poursuit cette route, ces voyages naturalistes avec Marco Polo, le fameux Marco Polo, que tout le monde connaît le nom. Mais alors, qui était-il exactement ?
Alors, ce Marco Polo, bien évidemment, c'était un marchand, d'une famille de marchands. Ses oncles étaient déjà allés jusqu'en Chine. Il les a, donc c'est au XIIIe,
au XIIIe siècle.
Il est allé en Chine où il a parcouru, il a été en rapport avec l'empereur.
Donc son but était le commerce au départ.
C'était le commerce, mais c'était quelqu'un de très curieux et donc qui regardait. Regardez au passage, je ne vais pas dire que c'était un naturaliste, mais qui regardait au passage les animaux qui l'étonnaient. En particulier, regardez à l'époque, on connaissait les dromadaires, bien évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée pour nous, mais les chameaux à deux bosses, on ne les connaissait pas.
Donc il a découvert des espèces comme ça.
Alors, il a découvert des espèces et quelquefois, il a fait des suggestions un peu
curieuses.
Oui,
par exemple, vous dites, il confond le rhinocéros avec la mythique licorne. Là aussi, on revient à la mythologie.
Voilà, le rhinocéros de Sumatra, qu'il imagine être une mythique licorne, et puis il fait, c'est anecdotique, mais c'est assez amusant de dire, je pensais que la licorne était un très bel animal, et cet animal est très laid.
Autour de la question, nous sommes avec Hervé Le Guyader. À quoi servent les expéditions scientifiques ? Hervé Le Guyader, donc des bruits de voiliers pour nous mettre dans l'ambiance, puisque en fait il faut imaginer que ces voyages autour du monde n'étaient pas du tout faciles. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone satellitaire et souvent même pas de carte. Donc alors c'est extrêmement dangereux.
C'est très dangereux. C'est très dangereux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie. Et quand vous voyez le nombre de marins qu'il y avait au départ et le nombre de marins qu'il y avait à l'arrivée des grandes expéditions, quelquefois, il n'y avait que le dixième des équipages qui revenaient.
Donc ils se perdaient. Et aussi, ils étaient, il faut le rappeler, victimes du scorbut.
Alors, c'est quoi ? Ce scorbut a été... c'est un déficit vitaminique qui est facile à contrebalancer en prenant des fruits et des légumes.
Mais il ne savait pas, en fait, qu'il fallait manger absolument des fruits et des légumes. Donc il partait uniquement avec des conserves ou des...
Il le savait pas. Et à un moment donné où les biologistes ont commencé à se douter de ces choses-là, eh bien, parfois, les officiers n'écoutaient pas les biologistes. C'est ce qui s'est passé pour l'expédition de Bering, par exemple, où Steller... s'était rendu compte qu'il y avait du scorbut. Il débarque sur une île et puis il voit quelque chose qui ressemble à un cresson. Il y a un cresson, on va cueillir tout cela et on va vous soigner. Et les officiers ont ricané et il a réussi à soigner son commandant, Bering, a été soigné, lui s'est soigné, et voilà.
Mais à quelle époque on a compris qu'effectivement, pour éviter le scorbut, il fallait manger des fruits ou des légumes?
Disons qu'à la fin du XVIIe, on a compris.
Oui. Voilà. Mais en attendant, donc, il y a beaucoup de marins qui meurent, effectivement, peu d'explorateurs meurent dans leur lit, vous écrivez.
Oui. D'où l'invention de la choucroute entre nous.
C'est-à-dire
Eh bien, la choucroute est une invention anglaise, en réalité, c'est-à-dire une manière de conserver le chou et qui garde toutes ses teneurs en vitamines.
Donc, voilà. Grâce aux explorateurs, nous pouvons manger de la choucroute. Hein. Je rappelle le titre de votre livre, L'aventure de la biodiversité. Nous partons donc autour du monde avec les explorateurs et on ne peut pas ne pas parler de Christophe Colomb, évidemment. Écoutons ce sketch de l'humoriste Albert Mellet.
En 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et je suis pour. En effet, on aurait pu attendre longtemps avant que les Indiens ne découvrent l'Europe. Est-ce qu'on imagine des pirogues d'Indiens débarquer en 1944 sur les plages de Normandie? Et il était parti pour l'Inde, Christophe. Et il pense avoir réussi lorsque sur les côtes d'Amérique, il échoua. Et que les premiers Indiens apparurent. Mais si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les Indiens ont découvert Christophe Colomb.
Le Guyader, alors ça vous évoque quoi ce sketch d'Albert Mellet sur Christophe Colomb? Parce que vous en parlez, hein, évidemment, de Christophe Colomb dans votre livre.
Deux choses. D'abord, quand il est arrivé là-bas, il pensait qu'il était arrivé au Japon. Quand il est arrivé aux Bahamas, il pensait qu'il était arrivé au Japon.
Et donc c'était un échec en fait pour lui.
C'était un échec retentissant. Quand il est rentré, c'était un échec parce que d'un point de vue commercial, il ramenait rien du tout. D'autre part, il a toujours pensé qu'il est arrivé au Japon. Il n'a jamais compris qu'il avait trouvé quelque chose de nouveau. C'est Américo Vespucci qui, par la suite, va comprendre que c'est un nouveau continent.
Par la suite, parce que même quand il est revenu, il n'avait pas compris qu'il avait découvert l'Amérique.
Il n'avait pas compris qu'il avait découvert l'Amérique. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, les Indiens, comme ils disent, ont découvert Christophe Colomb, mais ce sera à quel prix?
À quel prix? Et justement, oui. Nous allons y revenir après une petite pause musicale, toujours dans la marine. Donc avec les marins d'Iroise, Hardy Légard. Autour de la question, pourquoi les expéditions scientifiques avec le biologiste Hervé Le Guyader? Donc nous parlions justement de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et de la découverte des Indiens par Christophe Colomb et réciproquement. Et cela nous mène justement à une controverse célèbre, la controverse de Valladolid. C'est-à-dire à cette époque-là, certaines personnes se demandaient si les Indiens pouvaient être considérés comme des êtres humains.
Bien, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour décider si les Indiens ont une âme.
Monsieur le juge, je demande la parole.
La parole est à vous, monsieur l'avocat.
Et je pense qu'on peut régler cette question rapidement. Qu'est-ce qu'ils portent sur la tête? Des plumes. Qui porte des plumes? Les autruches. Qu'est-ce qu'une autruche?
Un oiseau.
Les animaux ont-ils une âme?
non.
Non. Les animaux n'ont pas d'âme. Lui, c'est une autruche, donc il a pas d'âme. Allez, on va manger.
Donc là, c'est un sketch humoristique, mais c'est pas du tout, ça n'est pas du tout humoristique dans la vraie vie, hein, puisque là, c'était vraiment une tragédie, Hervé Le Guyader. Hein.
C'était une tragédie, en fait.
Donc nous sommes là en 1550 à peu près.
Oui,
hein,
c'est ça, voilà. Exactement. Oui, milieu, c'est sous le règne de Charles Quint, en fait. Hein. Et en fait, la question, ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, c'est pourquoi la question pouvait se poser.
Oui, alors là, Valladolid, en fait, c'est en Espagne. Hein.
C'est en
une
Espagne,
ville d'Espagne,
c'est une ville d'Espagne
où il y a eu un vrai débat sérieux où des gens se demandaient si les Indiens étaient des hommes ou pas.
Voilà. Et donc, il y a eu deux théologiens qui se sont disputés au sens propre du terme. L'un qui donc suivait Aristote, l'autre qui suivait Thomas d'Aquin.
C'est-à-dire, donc l'un qui pensait que c'était des hommes.
Qui n'étaient pas tout à fait des hommes, donc on pouvait en faire des esclaves. Et les autres qui pouvaient être des hommes. Donc,
chacun avec des arguments.
Avec des arguments tirés de la philosophie. Bon, donc la controverse est tombée, ce sont des hommes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'époque, on avait l'idée de l'échelle des êtres. Et l'idée de l'échelle des êtres, c'est ranger les organismes suivant une échelle linéaire. Et l'idée, c'était qu'à chaque fois, on pouvait imaginer qu'entre plusieurs échelons, eh bien, pouvaient arriver de nouveaux
donc,
organismes.
Donc oui, par exemple, les Indiens pouvaient être un peu des hommes, mais pas complètement.
Voilà, exactement.
Ils avaient une partie d'humanité.
Ils avaient une partie d'humanité. Et donc, ça a été tranché et... Il faut bien reconnaître que Charles Quint a su en tirer les choses, mais n'a pas su tout contrôler. C'était des hommes, mais ils en ont fait des esclaves quand même, sans le dire.
Voilà, alors ces expéditions, qui n'étaient pas encore scientifiques, hein, mais qui étaient quand même des expéditions pour découvrir la planète, ont quand même assez vite conduit à l'esclavage.
Alors, en Amérique du Sud, oui. En Amérique du Sud, oui. En Afrique, disons que les Européens ont détourné l'esclavage qui existait déjà.
Ce ne sont pas eux qui ont amené l'esclavage.
Il était pratiqué par ce qu'on appelait les Maures à l'époque, qui prenaient principalement...
C'est-à-dire l'Afrique du Nord, les Maghrébins.
Les Maghrébins qui prenaient les Noirs.
Et qui les emmenaient où?
Et qui les emmenaient jusqu'en Inde. Qui les vendait jusqu'en Inde.
À quelle époque, puis, là, donc on est...
Donc, ça a commencé très tôt. Je serais incapable de vous dire
oui,
à quel moment.
Disons,
mais là,
l'esclavage n'est pas le monopole exclusif des Européens, d'une
absolument,
certaine façon.
Absolument.
Mais vous citez aussi, justement, Charles de Brosse, qui, en 1700 et des poussières, justement, est un magistrat humaniste, hein, qui dit, alors, nous devons éviter les deux vices qu'eurent alors les Espagnols, l'avarice et la cruauté. L'une a dépeuplé leur propre pays par l'avidité d'une fortune chimérique qui ne doit pas se faire ainsi. Et ensuite, il justement dénonce aussi l'esclavage. Donc il y avait quand même des esprits éclairés qui s'y opposaient.
Absolument. Et j'ai trouvé ça absolument intéressant. Je vous racontais hors antenne que j'avais commencé à rédiger ça moi-même. Et tout d'un coup, je suis tombé sur ces citations du président de Brosse. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus pertinent de faire parler les gens de l'époque. Mais il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi, et de dire qu'on oublie la principale destruction, disons, de ces civilisations, c'est principalement dû aux maladies qui ont été amenées.
Par les explorateurs.
Par les explorateurs.
Par exemple, quel type de maladie?
C'était la variole, la grippe, tout simplement les rhumes. C'est-à-dire que comme les systèmes immunitaires n'étaient pas pour soigner ces différentes maladies qui arrivent d'Europe, c'est quelque chose où il y a eu des décimations extraordinaires, en particulier en Australie et en Amérique du Nord, avec les Indiens d'Amérique du Nord.
Et les expéditions se sont vraiment développées au XVe siècle. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, hein, ce qu'on appelle le Quattrocento, comme disent les Italiens, hein.
Alors, il s'est passé quelque chose qui tourne autour de ce qu'on va appeler le décentrement du monde, si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui vont en même temps. Il y a eu la découverte de, à Florence, d'une nouvelle manière de représenter les tableaux avec la perspective géométrique,
en fait. Hein, c'est
où c'est le sujet. Oui. D'autre part, il y a l'imprimerie. L'imprimerie qui va permettre donc de distribuer des textes et chacun va pouvoir en parler et non pas quelques lettrés. Il y a bien évidemment Copernic qui va enlever la Terre
dans l'espace
du monde.
Copernic, c'est pas sur Terre.
Mais ça fait rien parce que à ce moment-là, le jeu des planètes, ce n'est pas un éternel retour. C'est quelque chose qu'il va falloir calculer.
Disons, ça change la façon de voir le monde. On n'est plus le centre de l'univers.
On n'est plus le centre de l'univers.
Des choses à découvrir ailleurs.
Et tout va changer. Et l'idée qui va en ressortir, c'est l'idée que, on est en train de bâtir pour un futur. On travaille pour un futur. Ça va être l'idée de progrès. Le futur sera le mieux, c'est l'idée de progrès qui ressort.
Et aussi, justement, les progrès en construction navale à cette époque,
qui sont gigantesques. Et d'ailleurs, initiés par les Espagnols, principalement. Les caravelles, c'est initié par les Espagnols.
Et à cette époque-là, la France est aussi un pays d'explorateurs, à cette époque-là?
Alors, la France est un pays d'explorateurs. Disons que, je dirais que c'est quand même les Portugais, les Espagnols
qui sont les pionniers.
Et après, ça va être la France, puis ça va être l'Angleterre, et puis les Hollandais, quand le royaume de Charles Quint va éclater, les Hollandais vont être très participants.
Alors justement, on peut découvrir le monde en s'embarquant sur des voiliers au travers des océans, mais on peut aussi découvrir le monde en regardant une flaque d'eau. Et c'est assez amusant puisque vous parlez d'une personne qui s'appelle Anthony von Leeuwenhoek, qui est né en 1632, mort en 1723 à Delft, petite ville des Pays-Bas, et qui lui a découvert un univers que nous connaissons aujourd'hui, qui est l'univers de la microbiologie, et simplement en prenant une loupe, il était drapier, ce n'était pas un scientifique, et il a regardé des flaques d'eau. Donc, comment explorer dans une mare, en fait?
Voilà, c'est un clin d'œil, parce que j'ai trouvé ça très intéressant de parler des découvertes. Et effectivement, lui, il n'a pas bougé, mais il est allé voir dans l'infiniment petit. Et vous insistez sur le fait que c'est un drapier, c'est vrai. Et en réalité, vous savez pourquoi il a utilisé ces microscopes au départ? C'était tout simplement pour compter les fils de ces draps, parce que c'est au nombre de fils que les draps étaient vendus plus ou moins chers. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne pouvait faire autre chose que regarder les fils, et il a regardé, et il a passé après toute sa vie à regarder ces animaux et végétaux qu'il voyait dans les mares. Enfin, c'est assez fascinant.
C'est d'autant plus fascinant que ces loupes existaient, mais les scientifiques n'avaient pas pris la peine, n'avaient pas eu la curiosité, eux, de regarder autour d'eux, hein, comme le faisait von Leeuwenhoek, c'est-à-dire regarder des flaques d'eau, regarder des mouches.
Mais oui, mais c'est intéressant parce que justement, vous savez que tous les biologistes de l'époque, ce qu'ils voulaient faire de la biologie, ce qu'on appelle la biologie actuellement, ils faisaient de la médecine. Et en fait, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils ont commencé à regarder les cadavres, à regarder les organismes. Ils n'ont pas eu idée de regarder à côté. C'est lui qui a eu cette idée-là, qui bien sûr a été reprise par la suite.
Mais c'est de la microbiologie,
il a découvert les bactéries.
Et il a même découvert les spermatozoïdes. Hein.
C'est le premier à avoir vu les spermatozoïdes.
Donc tout simplement, il a eu l'idée de se masturber, de regarder avec sa loupe de drapier, et il a découvert les spermatozoïdes au XVIIIe siècle, ce que personne n'avait fait avant lui.
Absolument.
Incroyable. Donc nous sommes avec le biologiste Hervé Le Guyader pour son livre « L'aventure de la biodiversité » aux éditions Belin. Partons en voyage encore avec le groupe Ambient Crew, Music Traveler Man.
O'Reilly, with his dog,
tour de la question. Pourquoi les expéditions scientifiques avec le biologiste Hervé Le Guyader? Donc, dans votre livre, Hervé Le Guyader, vous parlez souvent de nourriture, de gastronomie. Finalement, la gastronomie a été un grand moteur de la découverte des explorations, hein, puisqu'on est allé chercher des épices, surtout.
Ah bah c'est le début, c'est réellement
avant même la science début. Finalement c'est la bouffe en fait, hein.
C'est la bouffe, c'est l'argent, disons.
Ah, l'argent mais guidé quand même par des préoccupations alimentaires,
parce que ces épices valaient une fortune, et en Europe ce qui ramenait des épices c'était les Vénitiens et les Génois qui négociaient avec les Arabes, qui négociaient eux-mêmes avec les Indiens, et donc ils faisaient payer très cher leur monopole.
Donc on parle de quelles épices là alors?
Alors c'est le clou de girofle, c'est la noix de muscade, et puis...
À cette époque-là, c'était en fait, disons, des matières rares. Aujourd'hui, on va dans un supermarché, on achète des clous de girofle, mais à l'époque, c'était aussi précieux que de l'or.
C'était des matières extrêmement rares, et l'idée, c'est que ces épices, on dit culinaire, mais aussi on pensait aussi que c'était médicinal, que cela soignait, fortifiait.
Ah, c'était aussi un but important, c'était pas simplement pour donner un petit peu plus de goût.
Il y avait les deux en même temps.
Au plat.
Voilà, il y avait les deux en même temps. Et effectivement, donc, l'idée c'était de, enlever leur monopole aux Vénitiens et aux Génois, et pour cela, on va pas traverser par l'Égypte. On va faire le tour de l'Afrique.
Donc alors, surtout clou de girofle, noix de muscade, alors
ça vient des cannelle. Ça vient de la Molucque, des Moluques, ça vient du côté de comment dirais-je, des Philippines actuellement.
Donc plutôt l'Orient, hein, en fait.
L'Orient.
Surtout, alors, une découverte importante, le café. Le café, aujourd'hui, c'est très banal, on en boit tous les matins, mais finalement, le café aussi a été un grand moteur des expéditions qui deviendront ensuite des expéditions scientifiques.
Alors, le café, il est plus proche, le café. Le café est africain. Hein. Le café est africain.
Avant même d'être sud-américain.
Ah oui. L'arabica vient de l'Éthiopie et le robusta vient de l'ouest de l'Afrique. Mais c'est surtout l'arabica.
Alors on exploite à partir de quand le café? D'ailleurs, il faut le découvrir, puisque donc quand on voit donc une plante, on n'a pas une tasse de café là en face de soi.
Ah oui, mais alors là ils ont fait à l'inverse, c'est-à-dire que les premiers explorateurs qui allaient donc dans les pays musulmans ont vu cette boisson, ont découvert cette boisson.
Qui était utilisée localement.
Et donc, ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et puis, à un moment donné, il y en a un qui a dit, ben voilà, c'est telle plante. Et il l'a ramené. Et l'anecdote est assez savoureuse, quand le café est arrivé en Italie, il y en a qui ont dit, mais c'est une boisson des impies. D'ailleurs, elle est noire comme l'enfer. Et en fait, le pape de l'époque, qui aimait beaucoup le café, l'a baptisé. Et
donc, baptisé le café pour pouvoir en boire.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et à ce moment-là, on a pu boire le café. Ah oui. Et après, le café a envahi. Et là, au point de vue, c'est assez intéressant parce que les cafés qui se sont ouverts, c'était les lieux de boisson où il n'y avait pas d'alcool.
Donc, ce sont les premiers cafés, hein, vous écrivez, aux environs de 1500, 1645, en fait. Hein.
Oui,
voilà, les premiers cafés des lieux. Destiné justement à la boisson du café.
Du café.
Mais il y avait des tavernes, mais on n'y buvait que de l'alcool.
Voilà, absolument. Et donc là, c'était surtout les intellectuels, les étudiants, etc., qui se réunissaient là pour parler, et c'était pas très bien vu, bien évidemment, par...
Ils étaient souvent contestataires, également.
Ils étaient bien contestataires.
Donc là, on voit en fait que finalement, c'est une histoire politique que vous nous racontez aussi à travers ce livre scientifique, hein, puisqu'on parle du café, de la plante, des études scientifiques qui viendront, mais auparavant donc de commerce, évidemment, hein, mais le lieu café aussi, sa naissance est un acte social, en fait.
Absolument, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir que on parle de plantes, on parle d'animaux, mais on parle de l'homme et des structures, des sociétés, des affrontements des sociétés.
Mais justement, alors, revenons à la science. Alors, à partir de quel moment on a commencé à s'intéresser à ce qu'on ramenait d'un point de vue scientifique? Par exemple, le café, puisque nous parlons du café, donc c'était une boisson, mais est-ce qu'il y avait des scientifiques qui aussi ont étudié cette plante
Alors, bien évidemment, les botanistes, à un moment donné...
Ça viendra plus tard.
Vous citez le milieu du 17e, ça y est, les botanistes là, commencent vraiment à bien s'intéresser aux choses. Mais l'idée, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a des plantes principalement qui viennent du monde. On va essayer de voir comment faire pour les classer. Et donc, les botanistes vont se poser la question de la classification botanique. Et donc, les deux individus vraiment intéressants, ça va être Jussieu d'une part, et ça va être Linné d'autre part, qui vont lancer vraiment ces manières de classer.
Voilà, là, donc, chronologiquement, nous sommes à peu près au 18e siècle. Et justement, en fait, là aussi, si on fait le lien avec la politique, c'est le siècle des Lumières. Là aussi, l'exploration du monde, la raison, la science est en plein essor aussi. Hein.
Absolument. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, disons que la science reine à l'époque, c'est l'astronomie. Et donc, va se poser différentes questions d'astronomie. Première question, est-ce qu'il y a des continents sur la Terre que l'on n'a pas découvert? Et l'idée qu'avaient les physiciens à l'époque était qu'il devait y avoir un énorme continent dans l'hémisphère sud qui devait contrebalancer toutes les terres de l'hémisphère nord, et ce continent était à découvrir.
Mais pourquoi? Pour l'équilibre de la Terre.
Pour l'équilibre de la Terre.
Sinon, elles tourneraient par rond.
Ouais, absolument. et comme elles tourneront, il doit y avoir quelque chose que l'on n'a pas découvert. Et la deuxième chose, c'est, eh bien, c'est une question fondamentalement intéressante, mais quelle est la taille du système solaire? Et en fait, pour aller voir s'il y a un continent, eh bien, on va envoyer des bateaux. Et pour essayer de calculer la taille du système solaire, on va aller voir des phénomènes astronomiques intéressants, en particulier ce qu'on appelle le transit de Vénus.
Oui, mais c'est-à-dire on ne peut pas aller voir en restant sur place ces phénomènes. Il faut voyager tout autour de la Terre.
Il faut voyager parce que pour pouvoir calculer, il faut que vous regardiez, que vous chronométrier l'entrée du le transit de Vénus, il faudrait peut-être que je l'explique
un petit
peu.
Oui, justement, j'allais vous poser
la question.
Le
transit de Vénus, c'est l'équivalent d'une éclipse, mais comme Vénus est tout petit, Vénus ne cache pas tout le Soleil, c'est le petit disque de Vénus qui passe devant le Soleil, et donc, on appelle ça le transit
de
Vénus.
Et ça sert à quoi, alors, de calculer ça?
Eh bien, lorsque vous regardez l'entrée du transit de Vénus et que vous le calculez à deux endroits extrêmement éloignés du globe terrestre, vous pouvez calculer par triangulation la distance entre la Terre et le Soleil.
Et on le savait déjà à cette époque.
Et on savait faire à l'époque.
Oui. Mais pourquoi le transit de Vénus plutôt que le transit de Mars ou de Neptune ou...
Parce que Vénus est entre la Terre et le Soleil, et c'est le transit de Vénus qui va donner des précisions bien plus importantes.
Donc en vérité, c'est pour mieux comprendre aussi le système solaire, le ciel, que les humains sont partis explorer la Terre.
Alors, les deux grandes explorations qui ont été là, ça a été pour les Français, c'était Bougainville. Et pour les...
Bougainville, donc aux environs 1800 à peu près.
Oui, c'est ça. Non, avant.
1760.
Et les explorations de Cook.
James Cook, hein, aussi à la même époque à peu près.
À peu près à la même époque.
Donc ils sont allés où
Alors ils sont principalement allés dans le Pacifique, parce que pour être éloignés le plus possible de l'Europe, pour faire ce transit de Vénus. Et donc le premier voyage de Cook, ça va être pour le transit de Vénus. Et le deuxième voyage de Cook, où il va énormément se balader jusqu'au continent antarctique, eh bien, ça va être pour démontrer qu'il n'y a pas ce fameux continent imaginé.
Donc, il y avait des motivations commerciales, on l'a dit, à ces voyages, des motivations politiques aussi pour le prestige, la gestion, enfin le contrôle des mers.
C'était le contrôle des mers. Et c'était donc essayer de voir où on pouvait mettre des comptoirs, où on pouvait faire du commerce. Donc c'était bien sûr scientifique, mais aussi c'était effectivement commercial et politique.
Donc mais des motivations réellement scientifiques, les premières expéditions naturalistes, elles sont arrivées plutôt au XVIIIe siècle, pas avant.
Absolument, parce que en fait à un moment donné, disons, tous les éléments importants pour l'astronomie ont été faits, et donc on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire vis-à-vis de la biologie. Hein. Les biologistes, au départ, étaient un peu, disons, en second couteau, et à un moment, tout d'un coup, ça va être les biologistes qui vont apparaître. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ces explorations, c'est que les premières grandes explorations, style Cook, La Pérouse, etc., c'était le voyage en bateau, c'était le déplacement. On allait dans les îles, on allait regarder la faune et la flore. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais on est sur l'eau, on peut regarder ce qu'il y a sur l'eau, dans l'eau. Et se dire, regardez le plancton, regardez, oui. Regardez les animaux marins, la biologie marine, paradoxalement, est arrivée plus tard. Il a fallu presque un siècle pour qu'elle arrive.
Alors justement, on ne peut pas ne pas parler de Darwin, hein, évidemment, qui lui aussi est, disons, l'emblème, hein, de l'expédition scientifique.
Lorsqu'il embarque sur le Beagle, Darwin a 22 ans et quelques certitudes. En 5 ans de voyage, il va ouvrir les yeux, changer son regard sur la création et développer une théorie qui va ébranler le monde.
Donc Hervé Le Guyader, alors Darwin, hein, qui s'embarque lui aussi sur le Beagle, au départ ce n'est pas une expédition scientifique, mais militaire, pour cartographier, en fait, la planète.
Pour cartographier l'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud, précisément.
Précisément, parce qu'on parle toujours du tour du monde de Darwin, mais Darwin, il a passé les trois quarts de son temps dans l'Amérique du Sud, et la plupart du temps, il était à terre, parce que comme il faisait la cartographie, eh bien, ils allaient d'endroit en endroit sur la côte, et puis ils débarquaient. Il a quasiment pas fait de biologie marine.
Et oui, mais alors en fait, il s'est greffé sur une expédition militaire au départ, hein, et puis donc en allant aux Galapagos, en observant les becs des pinsons, il a bâti sa théorie de l'évolution. Hein, donc à partir de là. Mais alors ces explorateurs, est-ce qu'ils voyageaient tout seuls ou en groupe? Alors il y avait des solitaires, il y avait des groupes. Hein, vous parlez notamment d'une expédition, d'une mission de 3000 participants. En 1732, organisé par l'impératrice Anne Ier.
C'est l'expédition de Bering. Alors effectivement, vous voyez tout, ça c'est l'extrême. C'est-à-dire que l'expédition de Bering s'est décidée à Saint-Pétersbourg, et l'idée c'était d'aller cartographier la Sibérie, de voir s'il y avait un passage en Amérique, ou s'il y avait un détroit, ce qu'on appelle le détroit de Bering actuellement, et tout ça, on ne le savait pas. Donc il fallait d'abord amener tout le matériel jusqu'au Kamtchatka sur la côte pacifique, construire les bateaux là-bas, puis faire l'expédition. Ça demandait une fortune et ça demandait beaucoup de temps. Et il y a eu beaucoup de morts, dont Bering d'ailleurs, qui a laissé sa vie. Et donc, ils ont découvert, effectivement, ils ont cartographié, ils ont découvert l'Amérique, ils ont découvert l'Alaska, ils ont bien démontré les choses. Et ce qui est intéressant au point de vue anecdotique, c'est que c'est la manière dont ils se sont rendus compte qu'ils étaient de l'autre côté, qu'ils étaient en Amérique.
Oui, comment alors?
Eh bien, ils arrivaient, ils étaient dans le brouillard. Il ne voyait rien, il ne pouvait pas faire le point, il ne savait pas très bien où il était. Et Steller, qui était donc le biologiste, voit un oiseau bleu, que l'on appelle le jet, depuis le jet de Steller. Et ce jet de Steller, il avait vu par des livres qui avaient été dessinés déjà que, eh bien, c'était un oiseau américain. Il a dit, il y a un jet comme ça, on est en Amérique. C'est la première fois où c'est la biologie qui va se servir pour
grâce
la géographie.
Grâce à un oiseau. Et justement, il faut rendre hommage aussi à tous ces explorateurs des pôles, hein, puisqu'on l'a dit au début de l'émission que c'était très dangereux à l'époque, hein, sans GPS, etc., sans carte même, mais c'était encore plus dangereux au pôle Nord. Nord, puisque là, il y avait les glaces. Combien d'explorateurs sont restés, justement, dans les glaces?
Alors, c'est quelque chose dont on reparle actuellement, parce que c'est la recherche du passage du Nord-Ouest. C'est-à-dire essayer de contourner l'Amérique par le Nord. Et effectivement, le premier qui est mort, et qui est très connu, c'est Hudson, qui dans la baie d'Hudson, eh bien, c'est perdu. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'échecs. Et Bering, lui, il essayait de trouver le passage de l'autre côté. Et il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de morts. De l'autre côté, vers le sud, eh bien, ça a été essayer de découvrir d'autres passages. Et peut-être l'individu qui est important, c'est l'expédition importante pour nous, c'est Dumont-d'Urville.
Oui, alors c'est-à-dire
qui a
trouvé... Il est allé où exactement?
En Terre Adélie.
En Terre Adélie, au pôle sud. Hein,
au niveau du pôle sud. Donc c'était le premier vraiment à aller faire une expédition scientifique loin comme cela. Après, il y a eu les Anglais, les Américains, enfin il y a eu toute la bagarre.
Ce qui est intéressant et amusant dans votre livre, c'est que vous alternez comme ça entre la science, les considérations sociales et politiques, et puis aussi beaucoup d'anecdotes. Hein. Alors notamment, il y en a une qui m'a frappé, c'est que sur ces bateaux, en fait, hein, les femmes étaient interdites, et il y a un marin qui, justement, a amené sa femme, et qui l'a déguisée en homme pour passer inaperçu. Alors,
oui, c'est intéressant. Ces commerçants, dans l'expédition de Bougainville, commerçant embarque avec son valet, Jean Barret, qui est en fait Jeanne Barret.
Sa femme. D'ailleurs, pourquoi les femmes étaient interdites sur le bateau?
Ah, parce que ça portait malheur.
Ça portait malheur ou ça risquait de créer la zizanie entre les marins?
Ça risquait de mettre de la zizanie. Oui. Parce qu'il y en a un qui partit avec une jeunesse, c'est Kerguelen. Et avec une jolie fille, certainement.
Oui, et comment ça s'est passé?
Ça s'est passé très très mal, parce que Kerguelen, qui était déjà un peu vieux, peut-être que la jolie fille préférait les jeunes officiers.
Ah oui, donc l'expédition, alors...
Ça a très très, très mal tourné.
Ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu, alors, exactement?
En rentrant, il n'y a pas eu une mutinerie, mais ça ne s'est pas bien passé du tout. Et en rentrant, Kerguelen s'est fait casser de son...
Ah, tout ça à cause de la copine qui l'a amené sur le bateau.
De la copine qui l'a passé...
Et donc, cette femme, alors déguisée en homme,
Jeanne Barret, c'est une femme exceptionnelle. Et c'était une très bonne botaniste. Et la plante que vous connaissez tous, qui est la bougainvillée,
très bel arbre. Hein,
très bel arbre. Eh bien, en fait, ça, je l'ai découvert. C'est pas Commerson qui l'a découverte, c'est Jeanne Barret, parce que Commerson, au moment où ils l'ont découvert, il était blessé, il était tombé sur le bateau, il était blessé, il n'a pas débarqué. C'est Jeanne Barret qui l'a trouvé.
Donc cette femme déguisée en homme qui a découvert le Bougainvillier.
Et après, donc, à Tahiti, la supercherie a été découverte. Et en fait, Commerson et Jeanne Barret ont été débarqués à l'île Maurice. Ils sont allés jusqu'à Madagascar, et là, Commerson est mort de maladie, et Jeanne Barret a trouvé un capitaine et est rentrée. Et donc, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde.
D'accord. Alors, justement, à propos de tour du monde, nous sommes très écoutés en Afrique, hein, RFI, et souvent, alors, vous dites, l'Afrique a été délaissée par les explorateurs. C'est assez surprenant, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir en Afrique.
L'Afrique a été délaissée parce que, d'une part, à un moment donné, tout ce qui était le Maghreb, c'était des guerres. Les morts étaient en guerre contre les Européens, donc c'était extrêmement dangereux. D'autre part, ce qui se produit au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a relativement de ports faciles d'accès, que ce soit du côté atlantique, que ce soit du côté indien. Et l'autre point, qui est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que... au point de vue Afrique noire en particulier, il y avait des tribus partout, et ces tribus tenaient la terre. Et donc, je cite une phrase qui a été donnée par un chef de tribu à Gaspard Molien, c'est « Si tu es maître sur l'eau, tu ne l'es pas sur la Terre.
Oui, donc c'était extrêmement difficile. Alors, c'était il y a quand même Livingstone qui est le premier à avoir traversé l'Afrique.
Voilà. Hein, pour lui alors, rendre hommage aussi. Voilà. Ah, donc, mais Livingstone... alors, attendez que je me...
Donc là, surtout vers la fin du 19e siècle. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, donc il faudrait quand même dire un mot sur votre dernier chapitre, hein, la responsabilité de l'homme, très rapidement. C'est-à-dire, vous parlez justement des expéditions à travers les montagnes rocheuses qui ont conduit à la disparition des bisons.
Ah voilà, alors ça c'est donc au moment où les États-Unis sont devenus donc indépendants, eh bien les premiers présidents ont voulu bien connaître, ont fait une expédition Ulysses Clark qui est passée par
Lewis et Clark, oui,
Lewis et Clark par Yellowstone. Oui. Et donc on trouvait là un
le
endroit
parc actuellement
un,
de Yellowstone, voilà,
c'est extraordinaire, ça a été le parc. Et pendant que le président Grant signait pour le parc, eh bien, il avait ordonné la destruction de tous les bisons, principalement pour en sachant que si on détruit les bisons, on détruit les Sioux.
Pour affirmer les Indiens. Voilà. Voilà. Donc voilà un des exemples, un des effets totalement tragiques, hein, des expéditions. Hein. Donc malheureusement, l'émission touche à sa fin. C'était un fabuleux voyage en compagnie des explorateurs pour nous avoir servi de guide dans cette saga humaine et scientifique. Hervé Le Guyader, merci. Je rappelle le titre de votre livre, L'aventure de la biodiversité, de Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste aux éditions Belin. C'était autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.